VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia, en direct de Washington, pour vous présenter cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes mercredi 24 janvier 2018 au sommaire. Offensive de l'armée congolaise contre un groupe de rebelles Maïmaï dans l'est de la RDC. Au Sénégal, un chef rebelle du MFDC menace de rompre la trêve avec l'armée qui mène des opérations en Casamance. Arrestation en Libye de 6 personnes accusées d'avoir torturé des migrants. Et ici aux États-Unis, l'ex-médecin sportif Larry Nassar passera le reste de sa vie en prison pour avoir sexuellement abusé de jeunes athlètes. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, des affrontements à l'arme lourde ont opposé des soldats congolais aux rebelles Maïmaï et Yakutumba au sud de Kivu, notamment dans le territoire de Fizi. Ces affrontements ont entraîné une panique de la population. Les détails avec Ernest Mouero.
Selon la société civile locale à Baraka, pendant ces affrontements sur les lacs Tanganyika, un obus tiré en plein cité de Baraka a entraîné la mort sur le champ d'un garçon de 16 ans et 4 blessés, dont une femme dans un état très critique. Une certaine opinion à Baraka pense que cette attaque de Yakutumba était un acte de sabotage, car elle intervient moins de 10 minutes après le passage du gouverneur de province Claude Nyamugabo dans cette partie du Sud Kivu. Tout l'avant-midi de ce 24 janvier, la cité était calme avant que vers 13h heure locale, d'autres crépitements des balles et bombardements déchirent l'atmosphère, cette fois en direction de la presqu'île de Bouari, en grande partie contrôlée par Yakutumba. Selon les porte-parole adjoints de l'armée congolaise au sud Kivu, le capitaine Diedoné Kasereka, il s'agit d'une contre-offensive des FRDC qui, depuis 3 jours, multiplie d'autres attaques offensives contre les Maïmaï Yakutumba, particulièrement dans le secteur de Nganja, afin de les y déloger. D'autres sources parlent d'intenses combats dans les localités de Makama, Nemba et Kikonde à une quarantaine des kilomètres de Baraka. Pour l'heure, difficile de confirmer si l'armée régulière a déjà les contrôles de Kazimia, considéré comme le bastion de la rébellion de Yakutumba. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Toujours en République démocratique du Congo, des responsables d'une maternité à Kinshasa et les Nations Unies accusent la police d'avoir tiré des gaz lacrymogènes dimanche dans l'enceinte du bâtiment tenu par des catholiques. La police dément catégoriquement. Dire que la police tire intentionnellement sur une maternité est un mensonge inacceptable. La police congolaise n'est pas sadique, a déclaré le chef de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo. Un journaliste tchadien est en garde à vue depuis lundi suite à une plainte de l'ambassade du Soudan au Tchad. Le directeur de publication d'un journal arabophone, Mohamed Issa Abakar, devait être entendu demain. Le journal avait rapporté fin décembre que le président soudanais Omar el-Béchir aurait conseillé au président turc Recep Tayyip Erdogan de ne pas beaucoup investir au Tchad parce que le Tchad est un pays instable. Le Haut Conseil de la communication a demandé au journaliste d'Al-Shahid d'apporter les preuves de ce que le journaliste a dit, mais il n'aurait pas pu apporter ses preuves selon le HCR, le HCC plutôt. En Guinée équatoriale, quelques 135 militants de l'opposition ont été inculpés, sont actuellement détenus dans une prison du centre-sud. Selon leur avocat, les charges contre eux seront dévoilées lors de leur procès, dont la date n'a pas encore été fixée. Le président équato-guinéen Théodore Obiang-Nguema fait état de l'arrestation d'une vingtaine d'opposants. Le Parti citoyen pour l'innovation parle de plus de 200 de ces militants qui sont détenus sans motif. Au Sénégal, en chef de la rébellion MFDC en Casamance, Salif Sayo a averti que les opérations lancées par l'armée sénégalaise depuis le massacre de 14 forestiers pourraient remettre en cause la trêve. Nathalie Barche.
Entouré d'une cinquantaine d'hommes lourdement armés dans une forêt près de la frontière avec la Gambie, Salif Sadio a déclaré que le mouvement démocratique des forces de Casamance observe depuis 3 ans une trêve unilatérale. Selon ce chef rebelle, la tuerie n'a été qu'un prétexte qui a servi à l'armée sénégalaise pour déclencher des opérations militaires en Casamance. Si les opérations se poursuivent, nous serons obligés de rompre la trêve et cela peut mettre en cause tout le processus de paix, a-t-il ajouté, en référence à la reprise des négociations en octobre sous l'égide de la communauté de Saint-Égidio. Depuis le massacre de 14 hommes dans la forêt de Bayotte, l'armée multiplie les opérations de ratissage. 20 suspects ont été arrêtés, 16 ont été inculpés et 2 rebelles présumés ont été tués. Les premiers accrochages avec les militaires sénégalais depuis des années.
Les autorités zimbabwéennes annoncent des élections présidentielles et législatives avant juillet. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a indiqué lors du Forum économique mondial de Davos qu'il sera en mesure d'annoncer la date des élections le mois prochain. Il a promis des élections libres, justes, crédibles et non violentes. En Libye, un groupe armé loyal au gouvernement d'Union nationale a annoncé ce mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais. Le point avec Dili Diko.
Les arrestations ont lieu à Kadaïa, un village au sud de Sirte, à l'est de la capitale Tripoli, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant des scènes de torture contre des migrants africains. Les images révèlent des migrants sévèrement brûlés par des ravisseurs qui réclament des rançons à leurs familles. Selon le groupe armé qui les a capturés, il s'agit d'une bande composée de 5 Libyens et d'un Palestinien qui ont brutalisé 8 migrants actuellement soignés dans un hôpital à Sirte. Le groupe armé qui a arrêté les tortionnaires a également combattu l'an dernier les djihadistes de l'État islamique aux côtés des forces du gouvernement d'Union nationale dans la ville de Sirte. La Libye demeure une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants africains qui tentent de rejoindre l'Europe. Tout récemment, des images d'une chaîne de télévision prouvant que certains migrants sont vendus comme des esclaves en Libye avaient déchaîné une vague de colère et des manifestations à travers le monde.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra le 26 mars. Élu en 2014 pour un mandat de 4 ans, al-Sissi avait annoncé la semaine dernière son intention de se présenter pour un second mandat. Il est le seul candidat à ce jour à présenter formellement sa candidature pour cette élection. La date limite pour le dépôt des candidatures est pour ce lundi 29 janvier. Plusieurs autres candidats qui avaient annoncé leur intention de se présenter ont été disqualifiés ou ont annoncé leur retrait de la course à la présidentielle.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ex-médecin sportif Larry Nassar passera le reste de sa vie en prison après avoir été condamné à l'issue d'un procès historique où les victimes ont livré des témoignages poignants de leur vie brisée. Il a été reconnu coupable de multiples abus sexuels des jeunes gymnastes. « Je viens de signer votre arrêt de mort », a lancé la juge en prononçant une peine allant de 40 à 175 années de prison pour 7 chefs d'inculpation. Cette sentence s'ajoute à une condamnation à 60 ans de réclusion pour pédopornographie, un autre volet de l'affaire Nassar qui a secoué le monde de la gymnastique américaine. L'administration de Donald Trump a exigé ce mercredi de la part de plusieurs villes et États américains la remise de documents susceptibles de montrer que ces régions restreignent de façon illégale le partage d'informations sur l'immigration clandestine. Il s'agit d'une nouvelle mesure prise par les autorités fédérales à l'encontre des villes sanctuaires, ces municipalités qui refusent de coopérer avec les services de l'immigration pour arrêter les clandestins. Parmi les 23 collectivités visées figurent les métropoles démocrates de New York, Chicago et Los Angeles, et les États de Californie, de l'Oregon et de l'Illinois. Et puis en Afghanistan, au moins 3 personnes ont été tuées dans l'attaque du groupe État islamique contre Save the Children à Jalalabad. L'ONG britannique a suspendu ses opérations dans ce pays. Yacouba Ouedraogo.
Après une certaine confusion, le calme est revenu et les employés qui s'étaient cachés dans la Save Room, une pièce sécurisée de leur bâtiment, ont tous été évacués sains et saufs. L'attaque à la voiture piégée a duré plus de 7 heures. 2 gardes de l'ONG Save the Children et 1 civil ont été tués, 27 autres blessés. Ataoula Gogiani, porte-parole du gouverneur provincial, a affirmé que 6 assaillants, vêtus d'uniformes militaires, ont mené l'attaque. L'un d'entre eux a péri en déclenchant sa veste explosive. Les autres ont été abattus par les forces de sécurité. Le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque n'a mentionné que 3 martyrs. L'ONG Save the Children a suspendu ses opérations. Le président afghan, Ashraf Ghani, a condamné cette attaque. Le week-end dernier, un assaut contre un grand hôtel de Kaboul a fait plus de 20 morts. Le 31 décembre, un attentat à Jalalabad avait fait 18 morts, mais cette tuerie n'a pas été revendiquée et les talibans ont dit qu'ils ne sont pas les auteurs.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on parle d'économie dans ce journal. C'est la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La production d'or de la Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 2% et a atteint 25 tonnes en 2017. Le gouvernement a précisé que des gisements prometteurs étaient en cours de développement. Le secteur minier dans son ensemble, l'or, bauxite, nickel, cuivre, fer, a rapporté 539 milliards de francs CFA au pays. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un important pays minier d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne veut renouer avec le Zimbabwe et à soutenir le réengagement des institutions financières internationales auprès du pays. Mais l'Union européenne demande au préalable un programme clair de réformes politiques et économiques. Les relations se sont fortement dégradées dans les années 2000 à la suite du programme controversé de réformes agraires de Robert Mugabe. Aux États-Unis, le Sénat a confirmé Jerome Powell comme nouveau président de la Fed, la banque centrale américaine. Monsieur Powell était déjà membre du directoire de la Réserve fédérale depuis 5 ans. Il a notamment soutenu la sortie de la politique d'assouplissement monétaire quantitatif initiée après la crise financière et la remontée progressive des taux d'intérêt. Il succède à la démocrate Janet Yellen et devient le 16e président de la puissante banque centrale, une institution un peu plus que centenaire.
Et on retrouve Yacouba Ouedraogo pour cette dernière page des sports de ce soir. Yacouba, rebonsoir.
Rebonsoir, Abdourahmane.
Les derniers matchs des phases de poule du CHAN se jouent présentement.
Tout à fait, Abdourahmane. Deux matchs dans le groupe D, Burkina Faso, Cameroun et Congo-Angola, 0-0 dans les deux rencontres. Les Diables Rouges du Congo sont déjà qualifiés pour les quarts avec 2 victoires en 2 matchs. Les Palancas Negras de l'Angola, eux, y sont presque. Un match nul leur suffirait pour voir les quarts. Le Cameroun est out après 2 défaites en autant de matchs. Les étalons tiennent un mince espoir difficile à réaliser. Il faudra compter sur une défaite de l'Angola et surtout gagner avec 2 buts d'écart face aux Lions indomptables, ce qui n'est pas le cas pour le moment, à quelques 5 minutes de la mi-temps.
Donc un match à suivre et on passe à l'autre match, le Nigeria et la Libye qualifiés hier pour les quarts, mais des regrets par contre pour le Rwanda.
Oui, triste pour le Rwanda. Scénario cruel pour les Rwandais qui tenaient après 90 minutes une qualification pour les quarts. Les Amavubi sont finalement éliminés sur un but de la Libye à la 93e minute. Dans l'autre match, le Nigeria a conforté sa première place qualificative en dominant la Guinée équatoriale. 3-1, chevaliers de la Méditerranée, Super Eagles connaîtront leurs adversaires des quarts ce soir à l'issue des matchs Burkina Faso, Cameroun et Congo-Angola.
Le trophée de la Coupe du Monde a entamé aujourd'hui un nouveau tour du monde et 12 villes africaines vont l'accueillir.
Oui, Abdourahmane, démarré le 23 janvier à Colombo, au Sri Lanka, le trophée débutera son passage en Afrique à Khartoum, au Soudan, le 22 février, puis à Addis Abeba, en Éthiopie, Nairobi, au Kenya et à Maputo, au Mozambique. La Coupe passera dans 2 grandes villes en Afrique du Sud, Johannesburg et Cape Town, puis continuera son périple à Kampala en Ouganda avant d'atterrir à Abuja puis Lagos, ensuite cap sur Dakar pour voir Abdourahmane au Sénégal donc et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette tournée sur le continent sera clôturée les 15 et 16 mars au Caire. En Égypte, au total 91 villes vont être visitées dans 51 pays et 6 continents.
Comme toi, Yacouba, je vais juste te regarder à la télé. Donc, on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain. LeBron James qui bat tous les records.
Ah oui, la superstar de Cleveland est devenue le 7e joueur de l'histoire à marquer 30 000 points. LeBron James est aussi le plus jeune joueur de l'histoire à marquer 10 000 points en saison régulière à 23 ans. Il a atteint 20 000 points à 29 ans aujourd'hui. LeBron James a 33 ans. C'est aussi le seul joueur de l'histoire à avoir capté plus de 8 000 rebonds et fait plus de 7 000 passes décisives.
Merci beaucoup Yacouba et voilà qui met un point final à cette page des sports du Monde aujourd'hui, dernière édition.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo, appeler les Congolais à rester inflexibles malgré les dernières répressions meurtrières de marche contre le président Kabila. Un comité laïque de coordination qui a organisé ces manifestations veut absolument obtenir du président Kabila des garanties qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat en le déclarant publiquement. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles un consultant diplomatique. Il s'agit d'Henri Désiré Zouzi.
Le seuil de tolérance a été largement dépassé. Jusqu'ici, le cardinal, qui avait déjà affiché une attitude de fermeté, s'était néanmoins abstenu d'envenimer la situation. Mais au regard des derniers développements de l'actualité, il ne pouvait pas faire autrement que de sortir de sa réserve et de soutenir d'une certaine manière, au fond, ce mouvement de résistance qui s'est mis en place depuis le 31 décembre dernier.
Est-ce que l'Église ne s'écarte pas de son rôle traditionnel ?
On a souvent reproché à l'Église de ne pas s'impliquer suffisamment dans la résolution des conflits. On se souvient en 2011, notamment lorsque la réélection de Joseph Kabila avait été contestée, que cette même Église avait son propre décompte et finalement une idée sur l'ordre d'arrivée du scrutin. Et puis elle a botté en touche au prétexte qu'il fallait préserver l'Église au milieu du village. On se rend compte après 7 ans que non seulement elle a eu l'occasion de mûrir dans sa réflexion, mais qu'elle a été associée également dans la recherche d'une solution, puisque vous le savez, en 2016, la CENCO s'est impliquée pour que l'on aboutisse à ce fameux accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, cette même Église, à travers la coordination des laïcs, essaye simplement de rappeler l'importance de respecter un accord dont il faut garantir à la fois le respect, mais qui soit de nature à permettre aux Congolais de ce que les élections se tiendront à la date prévue telle que convenue.
Pensez-vous que le dialogue était encore possible parce que la mobilisation continue apparemment ?
Ce que j'entends par voie du dialogue, c'est une réponse autre que la violence. C'est d'accepter, par exemple, que les gens puissent manifester pour exprimer leur inquiétude, leur préoccupation, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est tout de même de faire en sorte que cet isolement dans lequel semble s'enfermer le régime ne puisse pas avoir d'autres conséquences. Ce qui se passe à l'heure actuelle en RDC, vous avez un désengagement massif au niveau des investissements étrangers, vous avez un délitement des conditions économiques et sociales. Ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, en dehors des images de violence que nous sommes habitués de voir depuis plusieurs semaines maintenant, il y a ce que l'on ne voit pas et qui peut avoir des conséquences potentiellement incalculables pour la RDC.
C'était Henri Désiré Zouzi, un consultant diplomatique joint à Bruxelles.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un regard sur le premier anniversaire de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Une fête gâchée par un shutdown de 3 jours. Mais un an après, où en sommes-nous ? Le président a-t-il changé les États-Unis ? Le pays tire-t-il profit des relations diplomatiques et commerciales de l'ère Trump ? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président et quels sont ses défis pour l'an 2? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Congo-Brazzaville, les membres de la société civile dénoncent les pratiques de corruption qui gangrènent l'économie nationale. Il reste sceptique suite aux multiples enquêtes lancées par le procureur de la République. Le reportage de Ngwe Langoussou à Brazzaville.
La gangrène est profonde et le Congo-Brazzaville reste l'un des pays les mal classés dans la corruption. Certains critiques pensent même que c'est devenu un sport national. Jean-Marie Ibarra de la société civile à Owando, dans le Nord.
Mais c'est courant qu'un directeur départemental qui arrive au Trésor et pour, avoir accès à ses crédits, il doit reverser un pourcentage aux agents du Trésor. C'est courant. Les enseignants sont corruptibles. Et ça, c'est très courant pendant les examens.
Pour l'analyste économique Augustin Benazo, le Congo est noyé dans la corruption et cela entrave son émergence économique.
Du secteur qui subit de point flou la corruption, nous avons la douane qui représente à peu près de 37%. Les marchés publics représentent près de 30%. Le système judiciaire représente près de 30%. Le Congo est devenu endémique au niveau Congo. Il y a des conséquences sur le niveau de vie de la population. Les indicateurs sociaux sont toujours très alarmants. Le seuil de la pauvreté est à 50% au Congo.
Récemment, les autorités, dont le président Denis Sassou Nguesso lui-même, se sont attaquées au phénomène en décriant le manque de sanctions dans l'administration publique. Lamir Ngele, président de la commission de lutte contre la corruption, en fait presque un rapport alarmant.
Courant l'an 2014, un crédit d'un montant de 1 milliard a été alloué pour le traitement antipaludique complet. Malheureusement, cette somme a servi uniquement pour l'achat des solutés de glucose 5% et des solutés salées de 10% auprès d'une société de la place, sacrifiant ainsi les populations d'un traitement approprié contre le paludisme. En outre, ce marché de gré à gré a été conclu sans contrat préalable et a été payé en totalité avant la fourniture des médicaments, en violation des dispositions réglementaires sur la passation des marchés. Au moment de l'enquête, la société détenait encore curieusement dans ses entrepôts plus de 40% du stock vendu.
La société civile ne cesse de dénoncer des pratiques qui frisent la corruption dans les milieux officiels. Fortuné Mekson Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, doute même de l'aboutissement des enquêtes judiciaires et de police enclenchées dans le pays.
La corruption ne va pas s'arrêter parce qu'on a arrêté 2-3 petits poissons. Parce qu'il est un phénomène général qui prend sa racine de la gouvernance électorale. Soyons sérieux, je crois que le procureur ne va toucher qu'au dossier qu'il sera autorisé à toucher. Donc il fera attention au regard de qui est au-dessus de lui.
Le FMI s'est montré sévère envers les autorités, allant jusqu'à demander à clarifier certaines fortunes constituées sur l'activité pétrolière. Nguela Ngousou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Mali, les attaques meurtrières attribuées à des djihadistes se sont multipliées malgré la présence de plusieurs forces militaires. D'abord, il y a l'armée malienne, puis la MINUSMA, les soldats français de l'opération Barkhane et la récente force du G5 Sahel. Cependant, les djihadistes sont restés très actifs et même étendent leur zone d'activité. Idriss Fall a reçu hier dans le studio Jean-Hervé Jezekel, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group.
On pourrait même rajouter à votre liste les missions européennes ECAP et UTM, une sorte d'embouteillage sécuritaire au Mali, en tout cas sur le papier, une intervention internationale, française, européenne, onusienne. Et pour autant, la situation n'a pas arrêté de se dégrader, particulièrement ces derniers mois. Il y a véritablement une faillite, on peut le dire, des réponses sécuritaires. Je pense qu'elles n'arrivent plus aujourd'hui à endiguer l'extension de la violence armée, qui est celle des groupes djihadistes, mais qui est aussi celle d'autres éléments armés. Je crois qu'il y a eu des succès avec l'opération Serval qui avait réussi à chasser un certain nombre de groupes hors des villes.
Dispersés.
Chassés aussi, d'une certaine manière. Mais ces groupes-là se sont réadaptés, se réimplantés dans les zones rurales, là où c'est très difficile d'aller les chercher, là où les États ne sont plus, là où les populations sont en manque aussi de services. Et là, les réponses militaires, elles n'arrivent pas à produire de l'effet durable.
Une solution. Donc finalement, l'extension. Le terrorisme a de très beaux jours au Mali.
De très beaux jours, je ne sais pas, parce que ce n'est pas non plus facile pour eux. Au fond, c'est un djihad rural, très loin des villes. Là, ils sont aussi soumis à de forts risques. Face à eux aussi, les États utilisent des groupes pour lutter contre eux. Donc, on est dans une sorte de zone grise et une extension progressive de ces groupes-là, de plus en plus, d'abord vers le centre du Mali, vers la région de Mopti, et puis aujourd'hui vers encore plus au sud, vers la région de Ségou, et on approche au fond de Bamako. Et ce qu'il faudrait, c'est relancer au fond sans doute une sorte de solution politique.
Comment ?
D'abord, il y a un projet politique qui a été lancé, c'est le projet de paix intermalien. Il y a 2 ans et demi maintenant à Bamako, malheureusement, ce plan de paix, il a inventé peu de nouvelles solutions, il reprend l'essentiel des points qui avaient été mis en place dans les précédents accords des années 90. Et au fond, voilà, il atteint des limites. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est au fond relancer des dialogues par le bas.
Prend Iyad Agali, c'est le leader historique des Touaregs. Aujourd'hui, on le présente comme étant terroriste. Hamadoun Koufa, qui est un peu du Massina, lui aussi, on le présente comme étant un chef djihadiste. Et il y a un autre qui s'appelle Abu Sahrawi qui se balade vers Menaka par là-bas et fait son shopping au Niger. Est-ce qu'on peut discuter avec des gens comme ça ?
Il faut distinguer deux choses. Il y a ces leaders-là. Et autour de ces leaders, il y a toute une série, en fait, d'autres groupes qui les rejoignent par opportunisme, ce qu'on pourrait appeler des chefs de seconde zone. Et je pense que ça serait faux de penser que, par exemple, quelqu'un comme Iyad Agrali est en commande d'un mouvement parfaitement structuré, parfaitement unifié. Non, en fait, il bricole un petit peu avec des groupes sur le terrain. Il essaye d'acheter des allégeances. Il y a de l'argent qui circule, il y a des groupes qui circulent. Et je pense qu'il est possible, en menant des séries de dialogues locaux, de retirer une partie de ces éléments-là. Par les négociations, je pense que beaucoup de gens encore sont réticents. D'abord, les partenaires internationaux sont réticents, mais même voilà, le président de la République du Mali voilà, a plutôt indiqué qu'il n'était pas prêt, pas encore disposé à franchir ce cap-là.
Jean-Hervé Jezekel, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest à International Crisis Group. Merci d'avoir suivi cette édition réalisée par Georges Léonard Sagnot à la console Joubert Altaïb. La présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le groupe État islamique a perdu la grande majorité du territoire qu'il contrôlait en Syrie, de même qu'il a été défait en Irak. Mais alors que la Russie pourrait considérer que la guerre en Syrie est terminée, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires proche-orientales par intérim, David Satterfield, a récemment déclaré devant le Congrès que les États-Unis demeurent déterminés à défaire de manière totale et durable le groupe État islamique et d'autres groupes terroristes en Syrie et dans la région, et à veiller à ce qu'ils ne puissent pas se reconstituer et revenir. Une chose que cette défaite durable exige est un processus politique crédible menant à un gouvernement choisi par le peuple syrien sans Bachar al-Assad. Ils ont infligé des souffrances et d'innombrables morts au peuple syrien. Ce régime attire la terreur, a déclaré M. Satterfield. Tout en reconnaissant les graves défis à venir, il a déclaré qu'avec le processus de Genève, dirigé par les Nations Unies pour une réforme électorale constitutionnelle crédible, ainsi qu'une transition politique en Syrie, est un objectif potentiellement réalisable. Les progrès vers cet objectif dépendent en partie de la Russie alliée de Bachar al-Assad. Nous aurons besoin que la Russie fasse pression sur le régime pour qu'il se conforme à la résolution 2254 du Conseil de sécurité et participe aux discussions politiques à Genève. Pourquoi la Russie devrait-elle le faire ? S'est demandé Satterfield avant de répondre. Parce que, sans un tel engagement, il n'y aura pas d'argent en Syrie pour la reconstruction. Il n'y aura aucune légitimation de la part de la communauté internationale, que ce soit pour la Russie ou pour la Syrie. Le processus politique sous la résolution 2254 est la clé, a déclaré M. Satterfield. C'est la clé pour s'adresser à Assad concernant son départ. C'est la clé pour résoudre la question des forces étrangères et de l'influence iranienne. Et nos outils pour faire avancer ce processus comprennent le déni de la légitimité et d'authenticité à toute revendication de victoire du régime syrien ou de ses partisans à Moscou ou au Téhéran, et la rétention des fonds de reconstruction vitaux pour le régime et les intérêts de Moscou sur le long terme. Les États-Unis, a déclaré le secrétaire d'État adjoint par intérim Sarsfield, sont déterminés à rester en Syrie pour atteindre tous nos objectifs stratégiques, y compris la défaite durable du groupe État islamique, les progrès sur la transition politique syrienne et la diminution de l'influence néfaste de l'Iran. L'évaluation de ces objectifs, a-t-il déclaré, ne sera pas basée sur des calendriers, mais sur l'évaluation des conditions examinées de manière progressive.
C'était un éditorial.